Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme, l'émission foot de référence de 18h à 20h du lundi au vendredi avec le grand, le seul, l'unique Jérôme Rotten, qu'on retrouvera avec plaisir le 5 janvier prochain. On profite de ces fêtes de fin d'année pour revivre les meilleurs moments, les moments qui ont marqué cette première partie de saison. Et il va y en avoir aujourd'hui, croyez-moi, avec à 18h30 le procès de Raphaël Varane qui militait pour l'interdiction du jeu de tête chez les enfants. Ça avait enflammé la Dream Team, notamment Christophe Dugas. N'hésitez pas à réécouter ce grand moment. À 18h45, Léa Logérôme avec là aussi des moments très forts. Alain Perrin qui était venu nous rendre visite avant ce Real Madrid Olympique de Marseille. Comment gérer la pression à Madrid pour les Marseillais? Grand moment à suivre sur RMC, mais on démarre avec Kylian Mbappé. Deviendra-t-il un grand numéro 9? On avait fait le débat avec Jérôme, avec Jean-Pierre Papin et avec Christophe Dugas.
T'as pas t'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Moi tu me parles pas d'âge.
Le comportement, l'attitude qu'a eu ce garçon est tout bonnement scandaleuse.
Vous pensez? Moi je pense pas, c'est mon avis.
C'est un garçon qui ne se sent concerné par aucune tâche défensive. Je l'ai jamais vu faire un repli, jamais vu faire aucun effort.
Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis.
Mbappé, il me fait ça, je l'attends et je lui mets un putain de coup de tête.
Oh non, il n'y a pas de tension, hein. Tranquille.
Faut pas penser qu'on brille toujours en étant décisif. C'est pas parce que t'es décisif que t'es le leader ou que t'es le meilleur.
Saison blanche, c'est sûr.
Tout ce cinéma, mais pour ça, on s'en branle.
Vous êtes pas content? Triplé.
C'est beau cette discussion interposée.
Ouais, mais ça va, le débat est clos, hein, ça y est.
Ouais, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a un ballon d'or pour parler du poste d'avant-centre. Et donc de ce capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, auteur d'un très beau début de saison, 3 buts en 3 journées de Liga avec le Real. Il est très affûté, il tire profit d'un programme individualisé concocté par le Real cet été. Xabi Alonso en a fait son leader d'attaque devant Vinicius. Le Real qui, depuis le début de saison, joue soit avec 2 pointes, soit avec le vrai numéro 9, donc Kylian Mbappé, qui est aidé par un numéro 10, Arda Güler. Mbappé, qui est donc l'avant-centre du plus grand club du monde. Deviendra-t-il un grand numéro 9, 32-16, pour participer au débat? Est-ce que tu y crois, toi, Jérôme? Des débats sur Mbappé, on en a fait beaucoup, mais sur ce poste en particulier, parce que c'est là qu'il joue désormais en équipe de France et au Real Madrid.
Bon, moi, je vais être bref parce que j'ai envie d'entendre Jean-Pierre là-dessus, bien sûr, et on en a fait beaucoup des débats avec Dugas l'année dernière. Je dis juste que moi, et là, on est en désaccord avec Dugas là-dessus, c'est que pour moi, dans le football actuel, ce que demande un joueur de côté, un attaquant de côté ou un milieu de côté, c'est beaucoup d'efforts pour le collectif, une concentration sur le replacement, des choses que Kylian n'est plus habitué à faire et n'a plus envie de faire. Et on le constate depuis maintenant quasiment 3 ans. Donc pour moi, c'est très clair. Luis Enrique a été catégorique là-dessus quand il était au PSG. Il l'a fait jouer en pointe, jamais sur le côté. Didier Deschamps l'a intégré dans le rôle d'attaquant axial et plus sur un côté. Et il préfère même mettre sur un côté Marcus Thuram, ouais, qui est pour de bon un attaquant axial. Mais il préfère parce qu'il sait très bien que Thuram va faire beaucoup plus d'efforts et plus concentré à la perte de la balle. Donc ce qui n'est pas le cas de Kylian. Après, une fois que tu as dit ça, donc tu t'obliges à le faire jouer dans l'axe. Bien sûr qu'il va falloir qu'il progresse encore, parce que je trouve, et là on était assez d'accord avec Dugas, que dans ses déplacements, par moment, même dans ses appels de balles, quand tu joues en numéro 9, il faut aussi te transformer juste en finisseur. Et lui, il a du mal encore à se projeter comme ça. Mais après, il y a une progression quand même. Et si je parle d'une progression ou une continuité, Kylian, il a toujours marqué des buts. Même quand il est pas bon, il marque des buts. L'année dernière, je l'ai pas trouvé exceptionnel dans son année au Real. Alors peut-être pas aidé par le collectif, hein, un collectif qui avait déjà beaucoup gagné et qui avait peut-être moins faim l'année dernière que les autres années. Mais n'empêche que il a pas fait sa meilleure année à tous les niveaux. Hein. Tu vois, mais il a marqué beaucoup de buts. Donc ça veut dire que il est clinique, il est beaucoup plus efficace, il a le geste juste. En plus, il va toujours aussi vite. Donc je pense qu'il doit par moment être un peu plus patient dans ses appels de balles. Mais moi, je reste persuadé qu'il peut encore faire mieux. Et il devra faire mieux s'il veut atteindre son objectif suprême, c'est-à-dire être ballon d'or.
Comme Jean-Pierre Papin.
Comme Jean-Pierre. Donc voilà, je laisse la parole à Jean-Pierre. Mais moi, j'y crois dans ce rôle de numéro 9.
Jean-Pierre, est-ce que Mbappé deviendra un grand numéro 9 alors?
En tout cas, il a les qualités pour. Ça, c'est une certitude. Son année l'année dernière... T'arrives dans un nouveau club, il te faut un temps d'adaptation relativement important, parce que le Real, ça, c'est quand même le Real, et que tu t'imposes pas du jour au lendemain. Malgré tout, il a quand même fait une année qui est très bonne, parce qu'il a marqué beaucoup de buts, il a fait marquer beaucoup de buts. Après, bien évidemment, je pense que ça sera jamais un numéro 9 de surface. Il a pas ce, je dirais qu'il est, il l'a pas encore. Alors, je sais pas s'il l'aura, je pense pas, parce que je pense que ça, on l'a ou on l'a pas dès le départ.
Il lui manque un peu. Comment t'expliques qu'il peut pas être numéro 9 de surface? Qu'est-ce qu'il faut à un numéro 9 de surface, en fait?
Parce que lui, sa principale qualité, c'est la vitesse. La principale qualité, c'est la profondeur. Mmh. Je pense qu'il a pas cette capacité aujourd'hui à s'arrêter et de rester là où il faut être quand on joue un attaquant de surface, c'est-à-dire il faut être entre le point de pénalty et les 6 mètres. Et ça, je crois qu'Mbappé aujourd'hui, ça, il l'a pas intégré. Donc pour lui, je pense que c'est compliqué. Par contre, où il doit encore progresser, et là, je mets quand même des bémols, parce que quand on parle quand même du capitaine d'équipe de France, d'un garçon. Après, moi, j'ai continué à progresser quand je suis arrivé à Milan. Quand je suis arrivé à Milan, je n'avais aucun jeu d'eau but. Et Capello m'a pris à part. Il m'a mis à chaque fois un ou deux défenseurs qui avaient pour consigne quand même de me serrer très fort, pour m'obliger justement à jouer en pivot, à jouer en remise, etc. Et quand je suis arrivé au Girondin après, Roland Courbis a été le premier à dire putain, Jean-Pierre, t'as changé quelque chose, parce que je t'ai jamais vu jouer comme ça. Donc je pars du principe qu'on peut toujours apprendre quoi qu'il arrive,
même quand on est Ballon d'Or, parce que t'étais Ballon d'Or quand t'arrives au Milan.
Et j'étais Ballon d'Or, ouais, on peut toujours apprendre quand on a envie d'apprendre. Et quand on veut quand même au Real Madrid faire une des plus grosses années qu'il ait jamais fait, parce que moi je l'ai vu cette année jouer, sincèrement je l'ai rarement vu aussi fit que ce que je peux le voir aujourd'hui.
Mais ouais.
Après, bien évidemment, le bémol qu'il a encore pour moi, son jeu de tête,
c'est peut-être ça qui l'empêche d'être un attaquant de surface.
Ouais, c'est possible, mais ce jeu de tête, il aime pas trop aller au contact. Mais est-ce que ça peut venir, je l'ai vu y aller quelques fois.
C'est pas possible, ça peut pas venir, ça c'est en toi. Soit tu l'as, soit tu l'as pas, le jeu de tête.
J'ai bien peur.
Ouais, mais envie ça, d'y aller, t'y vas pas.
Je pense que t'as raison là-dessus.
Ouais, je pense que il faut se forcer à aller au contact. Il y en a qui aiment pas aller au contact. Lui, il a pas peur des contacts quand il faut aller balle au pied. Après, aller au contact quand t'as des grands gabarits à la tête, etc., c'est jamais évident. Donc je pense qu'il a ces deux bémols là pour moi. Être un renard de surface, je pense qu'il ne le sera pas, même si quand même il est adroit. Et ce jeu de tête, à mon avis, il est important aujourd'hui.
Tu penses, et je donne la parole à Dugas, tu penses qu'il est... Moi, j'ai envie de le voir, alors je ne sais pas si c'est ton objectif aussi, et voir que ça progresse, c'est que j'ai envie de voir un joueur, un débordement sur le côté, un bon centre au cordeau, au premier poteau, et
coup de tête.
Et ouais, une tête plongeante, tu vois, où tu dis putain, ça y est, ouais. il a envie. Tu penses que ça fait partie de sa progression,
Jean-Pierre?
Ah, pardon. Non. C'était pour moi. Je crois que c'était pour Dugas.
Non, c'était pour toi.
En fait, quand on a atteint le niveau qu'il a atteint, parce que quand même le niveau qu'il a atteint, il est quand même énorme. Aujourd'hui, ça reste des détails. Ce que je te parle, ça reste des détails. Mais les détails, c'est ce qui est le plus compliqué à récupérer. C'est-à-dire que quand tu l'as pas depuis le départ, aujourd'hui, être très très bon de la tête, je pense qu'il peut améliorer. Par contre, je pense qu'il sera jamais très très bon de la tête.
Ouais.
Par contre, renard des surfaces, quant à la vitesse qu'il a, que tu peux te replacer, etc., tu peux toujours arriver par certains déplacements à devenir un renard de surface. Et peut-être que quand il va vieillir un petit peu, il aura un peu moins cette vivacité. Peut-être qu'il va récupérer un petit peu ce travail de renard de surface à ce moment-là.
D'accord. Ok.
Dugas, est-ce que ça deviendra un grand numéro 9 alors?
Toi, à l'arrivée, tu crois pas trop dans l'axe?
Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un grand numéro 9.
Oui, bien sûr.
Après, qu'est-ce que ça veut dire être un encore plus grand? Je sais pas vraiment. Sur l'attaquant de surface, moi, je pense que un attaquant de surface doit être capable de se faire de la place. La surface de réparation, c'est la zone de jeu la plus difficile parce que il y a énormément de densité et il faut trouver des espaces. Donc, comment tu te fais des espaces? Soit t'es malin. Ce qui arrive souvent, j'ai l'habitude d'avoir, tu vois, j'ai souvenir d'avoir joué avec Paoletta, qui était un joueur de surface très malin.
C'est vrai.
Très malin. Mmh. Ou, t'as le physique et tu te fais de la place avec tes bras, avec le combat, avec ton corps, comme par exemple peut le faire Olivier Giroud. Voilà. Moi, pour moi, c'est les deux identités que j'ai des attaquants de surface. Sur les deux, pour l'instant, il ne l'a pas. Après, c'est une question d'envie et d'attitude. Comment se situe Kylian Mbappé? Dans quel état d'esprit est Kylian Mbappé? Aujourd'hui, il paraît être un joueur qui a envie de progresser, qui est en train de se remettre aussi en question avec une nouvelle préparation. C'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'il a envie, s'il a envie d'être un grand avant-centre et de persister à ce poste-là, il va falloir qu'il accepte de se remettre en question dans certains domaines. À son niveau, c'est peut-être pas facile parce que c'est déjà un grand joueur, c'est déjà un potentiel entre guillemets ballon d'or. Donc se remettre en question quand t'es déjà un mec hyper fort qui a marqué je crois 44 ou 45 buts la saison dernière, c'est pas si évident que ça. Mais je pense que pour que un joueur soit convaincu, pour qu'on arrive à convaincre un joueur de son poste, il faut que lui-même soit déjà convaincu. Si lui est convaincu que ce poste est fait pour lui et veut faire les efforts pour s'adapter du mieux possible à ce poste et parfois prendre des informations ou prendre de la connaissance auprès d'anciens grands attaquants qu'il y a pu y avoir par exemple au Real Madrid. Elle est là la démarche. S'il veut devenir encore plus grand, il va falloir qu'il ait une démarche d'apprentissage, d'apprendre, de se remettre en question et de progresser parce que aujourd'hui il a des éléments qu'il maîtrise, qui lui permettent de marquer 44 buts, mais s'il maîtrise aussi le reste, peut-être qu'il en marquera 50, 60, 65, on n'en sait rien, mais la limite, j'ai envie de dire que la seule limite qu'il a ce garçon, c'est lui qui va se la donner, qui lui va se la mettre. À partir du moment où il sera convaincu qu'il sait déjà tout, ou presque, et qu'il n'a pas besoin de travailler sur ça ou sur ça, ben la limite se fera là. Mais après, moi, juste une chose sur le jeu de tête, c'est un problème du football d'aujourd'hui. C'est un problème universel. Le jeu de tête n'est absolument plus une priorité pour qui que ce soit. Le jeu de tête est devenu quelque chose. Voilà, si t'es grand, tu fais des têtes, mais on a l'impression que les petits ont pas envie de jouer à la tête. C'est l'impression que même dans la formation mondiale, le jeu de tête est devenu quelque chose de dérisoire et même pas important. Alors que c'est une arme qui est bien évidemment décisive quand tu vois le nombre de coups de pied arrêtés. Parce que moi, des attaquants qui savent pas faire des coups de tête, mais mon Dieu, j'en vois faire des têtes. Je pleure de rire tellement que c'est grotesque. C'est vraiment un truc de malade.
Ouais, mais quand t'as des joueurs qui sont capables, quoi qu'il arrive, malgré toutes les grandes qualités qu'ils ont, d'amener ce petit truc en plus de jeu de tête, c'est que tu débloques des situations quelquefois qui sont qui sont très compliquées.
Non, mais moi, quand je dis ça, Jean-Pierre, je m'en prends plus à la formation et aux
entraîneurs. Oui, bien sûr, les gars.
On a délaissé un petit peu ce panel du jeu qui est quelque chose d'essentiel.
Bah, t'en as encore quand même des joueurs qui sont bons de la tête, du gars.
Mais c'est inné.
Oui.
T'as l'impression que un mec qui sait pas jouer de la tête, c'est plus ou moins inné, et s'il sait pas, on dit toi t'es pas bon de la tête, tu te mets de côté,
je pense que c'est inné, mais c'est aussi pouvoir se servir des conseils de tes entraîneurs, de tes éducateurs, tes formateurs,
en disant voilà, remettre en question.
Oui, parce que regarde, je te prends l'exemple, on en a un qui est pas loin là au PSG et qui est pas très grand, Joao Neves. Vous avez vu le jeu de tête qu'il a, Joao Neves?
Oui, alors que c'est un petit gabarit.
Non, mais exactement. Donc ça, c'est forcément.
C'est pour ça que c'est pas une question de taille.
Mais oui, c'est une question aussi d'envie, de ne pas avoir peur, parce que là, je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre. Je pense que Kylian, il a cette crainte-là de la tête, ça se voit de toute façon.
Mais ça se voit, bien sûr, évidemment.
Mais oui, c'est pour ça. Donc ça fait partie de sa progression. Mais pour rebondir aussi sur ce que tu disais du gars, est-ce qu'il va se remettre en question? Est-ce qu'il va essayer de peaufiner un petit peu ce jeu d'avant-centre? Mais moi, pour l'instant, j'ai pas l'impression que, par rapport à toutes ces déclarations et à ce qu'il fait dans le jeu, qu'il se remet en question
Là, vous avez l'œil du spécialiste. Moi, je me permets juste une remarque, c'est que là où on l'attend, Kylian Mbappé, notamment avec le Real Madrid cette saison, c'est de marquer dans les grands matchs, en fait. Il a pas marqué face au Barça. Il a pas marqué dans les grands matchs de Ligue des Champions. Il avait été bon face à City, mais ensuite, il a marqué en quart de finale. Oui, contre City, il a marqué, mais après, on l'a plus vu. Et là, dans les matchs difficiles, à ce poste-là, c'est là qu'on l'attend. C'est à ce moment-là qu'on attend Mbappé. C'est pas de marquer contre les clubs de Ligue 1, en fait.
Le collectif était tellement moyen que.
Oui, mais Benzema l'a fait avec le Real. Cristiano Ronaldo l'a fait aussi, tu vois.
Mais plus tard.
Il avait d'autres qualités.
Avec Kroos et Modric.
C'est pas le même profil.
Mais Jean-Pierre, moi, tu sais, il y a quelque chose, et on en a parlé aussi avec Dugas l'année dernière, mais il y a quelque chose qui, pour moi, dans le travail du numéro 9, est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, le travail que doit faire Kylian, c'est par moment faire des courses où tu sais pertinemment que tu vas pas être servi. Tu parlais de sa vitesse, de sa profondeur.
Ça s'appelle des courses gratuites.
Et oui. Et ça, je trouve que l'année dernière, tout au long de la saison, il ne le faisait pas. Et il a pas envie de les faire. Est-ce que tu es assez d'accord avec moi pour grandir?
Ouais, je pense que je suis d'accord avec ton raisonnement, parce que c'est vrai que quand tu cours que pas, quand t'as le bon ballon, c'est plus compliqué pour les autres. Par contre, où tu dois faciliter les autres, c'est que ces courses gratuites, elles doivent être non seulement nombreuses, mais comme si t'allais être servi. Et moi, je crois que ce qu'il doit prendre en compte en plus, parce que ça, je sais pas si ça en rend compte, mais quand tu as Luis Enrique, quand tu as Xabi Alonso, quand tu as Didier Deschamps qui te replace en numéro 9, c'est que quelque part, il croit qu'en numéro 9, tu peux être très très bon.
Ah bah oui.
Et si ça, il en tient pas compte, c'est qu'en fait, il n'a pas envie. Comme tu le disais tout à l'heure, il n'a pas envie, quoi qu'il arrive, de progresser à ce poste.
Eh ouais.
Tiens, accueillons Babacar, supporter marseillais.
Après, aujourd'hui, c'est mon opinion. Moi, je préfère mettre Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Je trouve que...
dans l'équipe de France.
Ouais. Je trouve que Dembélé, aujourd'hui, il a dans la surface de réparation, je trouve qu'il est malin, il va très très aussi, et je le trouve malin pour se trouver dans les espaces et aux bons endroits. Je trouve que c'est quelque chose qu'il a d'assez inné, parce qu'il n'a pas travaillé depuis bien longtemps, même si Luis Enrique a dû le faire travailler. Moi, aujourd'hui, je trouve que Dembélé, dans les buts qu'il marque, dans tous sa panoplie de buts, je trouve qu'il a quelque chose de plus évident du numéro 9 que pour moi Kylian Mbappé.
Babacar avec
il a un gros avantage, c'est qu'il est ambidextre en plus.
Oui, ouais, aussi.
C'est quoi qu'il arrive, t'as pied droit, pied gauche, quand t'es numéro 9, oui. Que t'es bon du pied droit, t'es bon du pied gauche, ça arrange pas mal les choses. Hein.
Ça, c'est pas faux.
Mais tu te rends compte quand t'arrives, quand t'es dans la surface de réparation, où t'as tellement peu de temps pour trouver la bonne surface de pied pour marquer, lui, il a les deux pieds. C'est-à-dire qu'il perd pas déjà le temps du contre ce qu'il a les deux pieds,
oui, donc
il a
de se remettre sur le bon pied.
Le meilleur pied. Il gagne un temps, il gagne une vitesse qui fait souvent la différence.
Cavani, même si maintenant il est en fin de carrière, mais il joue encore.
Merci à Babacar qui est venu au 32-16.
Non, mais il y a des contre-exemples.
Ouais.
C'est après.
Oui, il a raison sur ce qu'il dit. Il y a cet aspect-là de l'avant-centre. Après, je trouve qu'il a fait une généralité, alors que non, toutes les équipes jouent pas en transition, et heureusement. Ouais. Et jouer qu'en transition aujourd'hui, c'est une bonne équipe. Tu dois maîtriser et la transition et aussi l'attaque placée. Autrement, tu t'en sors pas.
Encore un magnifique débat autour de Kylian Mbappé. Dans un instant, le procès. Celui de Raphaël Varane, qui militait pour l'interdiction du jeu de tête chez les enfants, s'avait enflammé. Christophe Dugarry, restez avec nous. On est là jusqu'à 20h sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC à partir de 19h. Un nouvel épisode du jeu de la vérité qui avait beaucoup fait parler, ce jeu de la vérité. Les invités disaient la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. L'épisode de ce soir a été marquant. C'était Mathieu Valbuena qui s'était prêté à l'exercice, il avait répondu à toutes les questions, son départ houleux de l'Olympique de Marseille, sa relation avec l'équipe de France, l'affaire de la sextape aussi. Restez là, soyez là à 19h pour revivre ce grand moment. Mais tout de suite, le procès avec un Christophe Dugarry en furie.
RMC, Rotten sans flamme.
Ça m'est déjà arrivé de faire une commotion suite à une répétition de jeu de tête. J'ai joué sans avoir pris conscience que, en fait, j'étais pas vraiment en capacité de jouer. Quand le cerveau est en plein développement, il y a des précautions à prendre. Et ça, c'est hyper important.
Le procès de Rotten sans flamme.
La prise de position de Raphaël Varane ce matin sur RMC, son combat, le jeu de tête chez les jeunes footballeurs. Sujet important mais sous-estimé d'après lui. Quand le cerveau est en plein développement, il y a des précautions à prendre. Je pense qu'avant 12 ans, il n'y a pas forcément besoin de jouer avec la tête au football. En fait, son souhait, c'est donc d'éviter le jeu de tête à répétition à l'entraînement, d'améliorer les soins et les protocoles en cas de commotion. Je vous signale juste qu'une étude écossaise en 2019
2019 qui a été menée auprès de footballeurs a révélé que chez ces joueurs-là, eh bien, il y avait trois fois plus de chances de mourir d'une maladie neurodégénérative que la moyenne. On parle là de maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Et que d'ailleurs, depuis 2020, en Écosse, on interdit les jeux de tête pour les moins de 12 ans. Ensuite, c'est un apprentissage progressif avec des ballons en mousse, avec des ballons plus petits et des ballons moins gonflés jusqu'à 18 ans et donc un vrai jeu de tête autorisé pour les jeunes footballeurs écossais. Ouvrons donc le procès de Raphaël Varane ce soir qui milite pour l'interdiction du jeu de tête chez les enfants. On a deux procureurs, Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Un avocat, c'est maître Benoît Costil, bonsoir maître.
Bonsoir.
Et un auditeur va arriver au 32-16 pour rendre son verdict. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Christophe Dugarry? Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Tu nous as parlé de la faiblesse des jeux de tête chez les jeunes footballeurs français, puisque tu as vu un match U19 récemment et ça t'a sauté aux yeux.
Oh bah, même les professionnels.
Même les pros. Qu'est-ce que tu penses de la position donc de Raphaël Varane?
Non mais j'ai beaucoup de respect pour Raphaël Varane. C'est un garçon intelligent, c'est un garçon posé, c'est un garçon calme. S'il a eu cette réflexion à un moment donné, pourquoi pas? Maintenant, à empêcher les joueurs de foot avant 12 ans de faire des jeux de tête, je comprends pas l'idée. Sincèrement, ça veut dire quoi? Donc on les empêche aussi de sortir, on les met sous une bulle, on les empêche de jouer au foot. Parce qu'imagine, ils prennent, il y a une frappe, il y en a un, il prend le ballon dans la tête. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être que s'il prend aussi un ballon dans les parties génitales, peut-être qu'il va être infertile aussi. Que forcément, si tu prends trois ballons dans ta jeune vie, un peu plus dans les machins, peut-être que tu as plus de chances d'être infertile aussi. Je trouve que c'est des débats qui sont, à mon avis, ridicules. Alors, on sort l'exemple de l'Écosse. Donc, dans ces conditions, avant 12 ans, tu joues plus au foot. Tu mets tes enfants sous verre et tu leur fais plus rien faire. Un enfant qui va faire du vélo avant 12 ans, qui maîtrise peut-être un peu moins bien, a plus de chances de tomber qu'un autre qui n'en fait pas. Et dans ces conditions, tu ne fais plus rien. Un monsieur qui prend, ou une dame qui prend sa voiture a plus de chances d'avoir un accident que celui qui n'en prend pas. Donc, dans ces conditions, on fait absolument plus rien. Et excusez-moi, des matchs de jeunes, je vais en voir souvent. Des jeunes qui font des têtes dans un match de foot, ils sont plus à fermer les yeux et à se cacher plutôt que de faire des têtes. Donc, allez m'expliquer qu'ils enchaînent un nombre de têtes qui peut éventuellement leur causer des séquelles au cerveau, ça me fait doucement rire. Alors, c'est peut-être possible, mais au bout d'un certain nombre de têtes, d'une certaine manière, une tête, je rappelle que ça se fait avec le front. Voilà, et tu avec des ballons qui sont parfois envoyés, centrés, passés, forts, qui peuvent éventuellement te sonner un petit peu. Là, c'est quelque chose de différent. S'il y a un coma sur un ballon qui est pris à grande force dans la figure et que le gamin je vais pas dire un coma, mais tombe dans les pommes, là, bien évidemment qu'il faut aller voir le médecin et pendant 10, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je n'en sais rien, je suis pas médecin, et l'empêcher de retourner sur le terrain. Là, c'est une commotion, c'est quelque chose de totalement différent. Mais ne plus faire des têtes au football, alors celle-là, je m'y attendais pas, je te cache pas.
Jérôme, qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus alors?
Je suis totalement d'accord avec ce que Dugarry dit. C'est que dans ces cas-là, avant un certain âge, t'interdis de faire n'importe quel sport de contact, dans tous les cas. Parce que un sport de contact, forcément, ce qui est le football, on l'a vécu, t'as la relation avec le pied.
Et les rugbyman, avant 12 ans, tu vas jouer au rugby.
Mais c'est la même chose. Les rugbyman, c'est pareil. Moi, le plus important, et je pense que là, pour moi, il se trompe dans son combat, c'est de parler de commotion. En effet, si un gamin, il prend, comme le disait Dugarry, un ballon dans la tête à pleine vitesse.
Ou un choc tête contre tête aussi.
Ou un choc de la tête et que tu fais une commotion, en effet, il faut protéger cet enfant-là. Parce que plusieurs commotions, j'imagine, avant que le cerveau soit bien mis en place, ça peut être problématique. Mais c'est même problématique une fois que le cerveau est bien mis en place. On le voit avec les rugbyman. Le grand combat des rugbyman aujourd'hui, c'est d'éviter ce genre de commotion. Et quand t'as des commotions, il y a vraiment des périodes de repos pour permettre aux joueurs de récupérer. En l'occurrence, il y a quand même eu dernièrement des discours d'anciens rugbyman qui sont dramatiques. Ouais. On parlait de Sébastien Chabal, mais c'est pas le seul qui a des pertes de mémoire, qui se souvient pas de certaines choses. Donc là, je veux bien, mais on n'en est pas là dans le football, rassurez-moi. Dire, je suis comme du gars. Moi, je vais voir les gamins jouer jusqu'à 12 ans, à 10 ans, à 9 ans, à 8 ans, à 7 ans. Mais tu crois qu'ils passent, ils font beaucoup de têtes? Il y a des gamins qui ne font jamais de tête. Et ceux qui font des têtes, c'est quand le ballon il arrive. Et là, en effet, tu fais une vraie tête, c'est-à-dire que t'apprends à faire des têtes avec le front. Alors, je pense pas, moi aujourd'hui, je suis pas dans les études et dans les fameux sondages là, comme tu viens de le dire, en disant que si le gamin il fait 10 têtes normalement du front et tout ça, il y a un impact après sur son cerveau, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'il va faire 10 têtes comme ça qu'il va faire une commotion. Donc en fait, je comprends pas. Et l'autre chose que j'ai envie de dire à Raphaël, c'est que dans ces cas-là, en effet, tu ne fais pas de football avant un certain âge. Et comme ça, t'as pas de prise de risque.
Tu peux jouer au foot sans la tête aussi. Hein.
Mais non, mais je suis. Mais
ah bon
comment ça? Jouer au foot sans la tête. Non mais ça me fait rire ça. Non, jouer au foot.
Mais évidemment.
Les règles du football, c'est quoi? Parce que nous, on est passé par là.
On peut jouer au rugby sans les mains aussi.
Non, ben, arrête.
Mais non, mais Kylian, il joue pas avec la tête. Hein.
Ben voilà,
il
regarde.
Mais moi, je comprends pas ces réflexions-là. C'est que.
Non, mais vous le balayez facilement d'un revers de main, alors que peut-être que c'est sérieux, il faut y faire attention. Tu vois, il y a peut-être des solutions.
Mais en fait, il y a rien.
Alternative.
Il y a rien de sérieux dans ce qu'il dit. Parce que déjà, il y a.
Je joue avec un casque, peut-être.
Donne-moi une vraie analyse de ce qui se passe. Au plutôt de nous dire oui, alors, mais alors il y a plus de risques par le passé et tout ça dans le futur de tel ou tel mec qui font des têtes. Non, pour moi ça n'a rien à
allez,
voir.
Allez Benoît,
c'est plus la relation en effet avec la commotion. Il y a commotion et il y a jeu de tête, mais il faut différencier les deux quand même.
Benoît.
Oui, c'est un procès assez
difficile.
Non, parce qu'on va être en accord sur certaines choses. Maintenant, je trouve que la question mérite d'être posée, qu'on a assez peu de recul par rapport à tout ça. Quand je vois l'interview de Raphaël Varane, il parle essentiellement des jeunes jusqu'à 12 ans. Il le dit bien que c'est impossible de jouer au football en bannissant les têtes, et il en parle même, il dit que lui ça faisait partie de ses qualités, donc de ses nombreuses qualités qu'il avait. Donc il dit pas de bannir la tête. Maintenant, je pense que on peut éventuellement l'adapter. Alors chez les plus petits, pourquoi pas? Le jeu de tête, c'est un geste technique qui se travaille, comme l'intérieur du pied, comme le contrôle, voire avant de recevoir, c'est un geste qui se travaille. Mais est-ce qu'on peut pas le travailler avec des ballons comme les Écossais font, des ballons en plastique, des ballons en mousse, et travailler juste la gestuelle, la bonne orientation des épaules? Christophe, c'est très bien, est mieux placé que moi pour en parler parce que on connaît tous son jeu de tête. Voilà. Maintenant, j'ai pu en parler à l'occasion, enfin dernièrement, avec Romain Bordas, qui est clinicien en neurosciences, sur son travail et qui prend beaucoup de joueurs de rugby qui sont sujets à commotion, qui ont eu des commotions,
ah oui,
etc.
Ah oui.
Mais là, après, il y a deux choses différentes. Il y a le jeu de tête et il y a le coup. Tête, donc c'est deux choses différentes.
Moi, je trouve que Benoît, il y a quelque chose de différent aussi, c'est quand tu prends un ballon pleine tête.
Exactement.
Comme ça, une frappe.
T'as des choses que tu peux pas maîtriser.
Ouais, oui.
T'as des choses
mais
que
c'est
tu
différent,
peux...
ça.
Exactement. Donc, je vous rejoins sur plein de choses. Maintenant, sur les plus petits, je trouve qu'on pourrait adapter les séances, que les éducateurs de jeunes peuvent y aller progressivement avant d'arriver à un ballon, à un vrai ballon de football. Alors,
mais tu crois quand même, Benoît, je suis désolé, tu crois que parce qu'ils font des têtes en apprenant le geste technique, parce que c'est un geste technique, que c'est problématique pour le cerveau. Ce qui est problématique, c'est que...
Et je suis curieux de le savoir. Non, mais j'attends de le savoir.
Mais c'est très clair. Et, du moins, on est passé par là. Du moins, le football, tu joues pas depuis 10 ans quand même.
Non, je suis d'accord avec toi, Jérôme, mais je suis curieux de savoir, d'avoir l'avis de spécialiste et de voir les
répercussions que ça peut avoir dans le temps. Non, mais ce qu'il y a de plus grave, c'est de prendre, en effet, peut-être à 6 ans, 7 ans, jusqu'à 12 ans, un ballon de plein fouet dans la tête où là t'as un chaos. Là oui, mais ça, est-ce que tu peux l'empêcher quand tu joues au football?
Non, mais c'est pas pareil, ça, Jérôme. Ça, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu, ça, Jérôme.
Salut Rachid.
C'est un fait de jeu, Jérôme.
C'est toi qui rends le verdict, Rachid. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses alors?
Salut Rachid. Ah, c'est cool.
Salut
bonjour
Rachid.
Tout le monde.
Salut.
Un
salut.
Spécial bonjour à monsieur Dimeco.
Ah bah il est pas là, ça veut dire.
Mais qui a fait beaucoup de têtes et ça se voit.
Ça pour moi. Donc ouais, bon pour moi, les nouveaux ballons comparés aux ballons d'avant 2000, je vois pas vraiment le problème à mettre des têtes. Avant on avait des ballons, c'était des briques. Je me souviens que à 9 ans, j'ai joué en moins de 11, seulement sur cette année-là, ils nous ont fait jouer sur les grands terrains au lieu de la largeur du terrain. Le gardien dégageait le ballon avec vraiment des ballons durs comme de la pierre. Et je reprenais le ballon de la tête sur le dégagement. Je renvoyais le ballon au gardien carrément. J'ai jamais eu de soucis de cerveau, je pense. Et bon, avec les nouveaux ballons, j'ai l'impression vraiment que ça fait vraiment beaucoup moins mal.
Donc tu donnes plutôt raison à Jérôme et Duga, quoi. Pour toi, tu
exactement.
Condamnes.
Moi, je pense qu'il faudrait plutôt interdire les tacles à la Dimeco.
Ok, bon, ça on n'en voit plus, heureusement. Ouais, ça c'est sûr. Rachid, merci d'être venu. La victoire de Duga et Jérôme.
Bravo les gars.
Après, Benoît, il n'y a pas de secret, on les a vus. Ils ont fait beaucoup de têtes et on s'en rend compte.
Ah non, moi j'en ai pas fait beaucoup.
Non, mais c'est un sujet intéressant.
Ouais, bon, on se demande s'il n'y a pas de séquelles.
Pour moi.
Bon, hein. Tout chez Duga ou chez Eric, tu vois. On dit qu'il y a des trucs.
Mais Jérôme, tu faisais jamais de têtes, toi, Jérôme.
Alors,
c'est semblant.
Déjà, j'en faisais des têtes. et les peu de fois où j'y suis allé, je peux te dire, soit j'avais une arcade ouverte, soit je me suis pété le nez aussi, parce qu'on m'a pété le nez aussi.
Une petite intervention de Romain Bordas ferait pas de mal, non, Jérôme?
Hein?
C'est sûr?
Non, je te le laisse.
Et pourquoi pas?
Romain Bordas, on l'embrasse.
Allez, voilà, un grand Christophe Dugarry que vous retrouverez lui aussi le 5 janvier lors de la reprise de Rotten sans flamme. Rotten sans flamme tous les soirs du lundi au vendredi sur RMC de 18h à 20h. Dans un instant, allô Jérôme, avec Alain Perrin, ancien coach de l'OM, qui nous avait rendu visite juste avant ce Real OM. Comment gérer la pression à Madrid? Il nous avait livré les clés. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron. Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Soyez là à 19h pour revivre le jeu de la vérité spécial Mathieu Valbuena. Tous les sujets abordés. Un grand moment d'une quarantaine de minutes qu'il ne faut pas rater. Et puis tout de suite, c'est le Allo Jérôme. Vous le savez, à 18h45 tous les jours sur RMC, un invité du monde du foot vient interpeller Jérôme sur le sujet de son choix. Trois moments sélectionnés ce soir. Alain Perrin, avant ce Real Madrid Olympique de Marseille, comment gérer la pression à Madrid pour les Marseillais? Les excuses de Jérôme Rotten à Eric Dimeco, justement, après OM-PSG, la victoire de l'OM face au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et puis Jean-Philippe Mateta, attaquant de l'équipe de France, qui venait nous parler de sa première sélection. C'est parti pour le Allo
Jérôme. RMC, Rotten sans flamme.
Et but de Ronaldo, centre en retrait, l'arme absolue, comme on dit. Zidane.
4 contre 3, Beckham est tout seul.
Où il est allé au bout. Oh, et but de Ronaldo.
But de Van Buyten.
Van Buyten sur ce corner.
Erreur de Casillas.
Allo Jérôme.
Tous les soirs à 18h45, un acteur du foot s'invite dans Rotten sans flamme ce soir. Alain Perrin, entraîneur de l'OM en 2003, qui allait défier le Grand Real au Bernabéu, défaite 4-2 face à Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo et Raoul. Bonsoir Alain.
Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir coach.
Bonsoir.
Ah oui coach.
Bonsoir à tous. Oui.
Ah ouais. Le mentor de Jérôme Rotten est parmi nous.
Oui, il est incroyable, incroyable. Merci Alain de venir participer à l'émission quelques minutes et de parler de cette expérience à l'Olympique de Marseille et de ce match à Santiago Bernabéu de l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens parce que bon tu vieillis aussi hein, comme Jean-Michel. Donc t'as des souvenirs quand même.
Ah bah c'était ouais pour nous un premier grand match et c'est pour ça que j'avais rejoint l'Olympique de Marseille, c'était pour vivre des moments comme ça parce que de vivre des grands stades et des ambiances de la Ligue des Champions, cette musique toujours en intro qui était dans nos têtes quoi, donc c'était magnifique.
Et d'ailleurs Alain, le contexte était à peu près le même parce que c'était le premier match de poule pour l'OM hein, cette saison-là en Ligue des Champions, premier match déplacement au Bernabéu et je l'ai dit chez un Real Madrid de galactique hein.
Oui, on s'était qualifié avec les matchs préliminaires, nous, ouais. Contre Vienne, je crois. Ouais. Et vous voyez, c'était notre premier match de poule. Et effectivement, pratiquement, je crois, la même date. Hein, je crois, c'est pas le 16 septembre.
Ah
et
ouais.
Puis, effectivement, il y avait peut-être plus d'écart entre les deux équipes que ce qu'il y en a pour moi ce soir.
Ouais, parce que là, quand on revoit l'équipe du Real, il y avait les Galactiques
encore. Hugo, Beckham, Zidane,
ouais, c'était
Ronaldo.
Les Galactiques.
Ah ouais, exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'atmosphère qui régnait à Madrid, ces grands rendez-vous européens? Jérôme, tu l'as vécu aussi en Ligue des Champions en 2004, mais à quoi ça ressemble d'affronter le Real dans son stade comme ça en Ligue des Champions, Alain?
Bah, c'est des grosses ambiances, hein, bien sûr. C'est des ambiances espagnoles, pleine saison, cette grande confiance qu'ils ont dans leur équipe, l'exigence qu'ils ont aussi quand même pour leurs joueurs, pour les résultats. Mais toujours, à la base, au départ du match, une ambiance de folie.
C'est un peu le même constat que tu fais du Real d'aujourd'hui. Ça a toujours été ils sont armés pour ça. Du moins à domicile, ils prennent des risques en effet. Et l'équipe qui arrive à ressortir proprement le ballon, à être assez propre, assez clinique, assez efficace, elle peut poser des problèmes à cette équipe du Real.
Voilà, c'est toujours trouver cet équilibre, c'est-à-dire que bien sûr il faut être capable. On sait qu'il faudra bien défendre, il faudra être groupé ou tout ça. Mais quand on récupère le ballon, il faut oser jouer. C'est-à-dire qu'il faut se rendre disponible pour le porteur, pour donner des solutions, pour pas livrer des garçons uniquement dans les duels où on va perdre les ballons dans les duels ou autres. Mais il faut offrir des solutions collectives. Donc il faut aussi une débauche d'énergie pour cela. Mais il faut surtout oser jouer et à proposer des solutions, parce que on sait que si on perd le ballon, après il faudra se replacer. Donc les joueurs souvent rechignent un petit peu, les défenseurs ou les milieux de terrain, à proposer des solutions, parce qu'ils ont peur de se découvrir, ils ont peur que si on perd le ballon, ils seront pas mal repassés. Donc c'est ça, c'est être capable de se déplacer pour donner des solutions sans perdre le ballon rapidement, parce que si on n'est pas bien replacé, ben là on se fait contrer très vite.
Le match était dingue, hein, 2003, donc je le rappelle, premier match de poule. Vous ouvrez le score, d'ailleurs Didier Drogba ouvre le score dans cette rencontre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous sentez de l'euphorie? Est-ce qu'on commence à rêver de se dire on va aller gagner chez le Grand Real, ou
il y avait malgré tout de la prudence? Non, parce qu'au bout de 20 minutes, non, on marque assez rapidement, 25 minutes je crois. Ouais. Mais oui, c'est très long. Et puis très vite justement, lorsqu'on marque, ils sont capables après d'appuyer sur l'accélérateur. Ouais. Et nous, on n'a pas été justement très bien tactiquement, parce que j'avais pris des risques, parce que j'avais mis Steve Marley sur le côté droit pour contrôler Roberto Carlos. Et Steve n'avait pas fait le boulot, quoi. Je veux dire, il s'était retourné et puis il disait toujours à Habib Bey qui était derrière son dos, Habib, c'est pour toi, Habib, c'est pour toi. Sauf que Habib, il avait déjà Zidane dans sa zone.
Il avait Zidane et Roberto Carlos à gérer.
Il était chargé de mettre un peu plus de pression sur Zidane, qui était fuyant, qui dézonnait, qui rentrait et qui nous mettait la misère au milieu de terrain. Donc, pauvre Habib, il était pris entre deux feux. Et comme Steve devant lui disait « Prends », bon, il restait un peu sur Roberto. Donc on était un petit peu dans les positions entre deux. Et donc après, on a pris un petit peu le bouillon sur ce côté.
Ah, te connaissant, il a dû prendre une bonne soufflante à la mi-temps.
Leur possession de balle.
Ah, ça c'est sûr, il a dû prendre une soufflante à la mi-temps. Je vous invite à aller voir les images si vous ne vous souvenez pas de ce match. Un but fantastique de Roberto Carlos, le centre de Beckham. La volée comme ça du Brésilien, magnifique. La défaite 4-2. Si vous aviez un conseil à donner aux Marseillais ce soir à l'Olympique Perrin, ce serait quoi donc ce match entre le Real et l'OM qui les attend?
C'est surtout justement de faire attention avec les émotions, c'est d'avoir bien envie, mais de oser jouer, de oser faire leur jeu. Ils ont des qualités, je pense qu'il y a moins d'écart, on connaît le potentiel offensif de cette équipe-là, de pas perdre le ballon rapidement lorsqu'ils l'ont, pour pas leur donner des cartouches, et puis justement d'être capable de le conserver, de les faire courir aussi un peu, de les faire douter, et de leur donner le moins d'occasions possible. Donc je pense qu'il faut avoir le cran de jouer et essayer d'être traité d'égal à égal, même si on sait après que les individualités feront peut-être la différence, mais bon, il y a aussi des individualités à Marseille capables de marquer des buts.
Alain, ce qui vous manquait dans cette équipe, c'est Jérôme Rotten, et qui vous a permis de briller à Troyes et d'aller signer à Marseille quelques mois plus tard.
Exactement. Lui, ça lui a permis de partir à Monaco, et moi à Marseille, comme on n'est pas trop bête, on était dans le sud, il y avait un peu de soleil, quoi.
Il était déjà insupportable, hein, rassurez-nous.
Pardon ?
Il était déjà insupportable à l'époque.
Non. Non, j'ai eu la chance, il était au tout début. Il avait son caractère,
au tout début, ça allait alors.
Il n'était pas insupportable.
Ouais, c'est que c'est devenu. Merci Alain, en tout cas, d'être venu partager la passion du foot. T'es le bienvenu quand tu as envie.
Ok, merci. Allez, bon match.
Merci Alain. Merci.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît, oui, tu peux appeler demain si jamais ça tourne bien. Ah,
c'est quoi, 18h45 dans Allo Géro? Ouais. On te le souhaite, Eric. À demain.
Soirée, Benoît.
À demain, Eric.
Allo Géro.
À demain, tu vois.
Et oui, et tous les
Allô
soirs.
Allô, ah ouais.
Chose promis. Chose du. Eric Dimeco avec nous. Salut, Rico.
Un acteur.
Ben
du
oui,
foot.
Ben voilà, moi.
Ça va, Eric?
Bon, franchement, j'avais oublié, mais quand même, on m'a rappelé ce matin que tu avais fait une promesse, hein, donc voilà.
Ben, c'est pour ça. Donc,
merci. J'attendais le petit coup de fil.
Merci de venir gratuitement, hein, à noter
gratos, c'est que du plaisir.
T'es très cher le lundi, mais là, c'est gratos. Donc,
qu'est-ce que t'as à lui dire, Jérôme?
Non, déjà,
j'avais quelque chose à me dire, du coup?
Non, rien de spécial. C'est juste, je voulais te poser des questions parce que comment comment s'est passée ta soirée alors
c'est
est-ce,
dur à
que,
sortir,
est-ce que c'est la soirée de ta vie sur les dernières années, Eric?
Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas le débat du jour là. Hier tu chantais, tu fanfaronnais, voilà. Donc tu as pas voulu comprendre que avec les absences du côté du PSG, y avait match. Tu étais sûr de toi. Tu allais éteindre le stade, si je me souviens bien. Luis Enrique. Bon, mais voilà, vous alliez éteindre le stade et tout. Donc nous, on baisse la tête parce que c'est vrai que ces dernières années, on prend beaucoup de branlées. Ne retourne pas la situation.
T'étais au stade hier
ou pas? Je regarde de la télé, donc moi je suis venu pour entendre des excuses, mais juste remettre les choses en place.
Est-ce que t'es content pour Eric ou
moi? Non, moi je suis content pour Eric.
Non, mais
blague à part, je suis content pour les supporters marseillais. C'est le deuxième meilleur club français qui s'impose comme ça contre le PSG. C'est fantastique, et puis même pour l'intérêt du championnat, parce qu'à l'arrivée, si le PSG avait gagné, ils étaient à 9 points déjà du Paris Saint-Germain, le championnat était plié. Donc
est-ce que tu peux lui dire pardon, Eric?
Mais non, il y a pas.
Donc tu es VRP de la Ligue, toi, Tottenham.
Non, parce que moi j'ai envie qu'il y ait de l'attractivité, que les équipes elles se tirent la bourre. C'était fabuleux.
Le poste de directeur commercial est pris déjà.
Apparemment,
qu'il y a le poste de président de la Ligue bientôt qui va se libérer.
Apparemment, vous me confirmez bien qu'il y avait une ambiance de malade, parce que bon, moi, je vous cache pas que j'ai plus regardé la cérémonie du Ballon d'Or. L'ambiance était incroyable.
Après, si tu préfères les paillettes que le vrai football, c'est sûr que on parle pas de la même chose, quoi. Dans ces cas-là, tu n'as même pas d'excuses à faire, hein. Ces cas-là. Nous, on préfère le football avec Jean-Michel et Jean-Pierre. On aime le foot.
C'est vrai.
Et on part du principe que c'est le foot qui donne les trophées aux joueurs. Alors, plutôt collectif, voire même individuel. Donc, on fait passer toujours le foot avant.
Voilà. Et est-ce que, Eric, non, mais blague à part, est-ce que tu as trouvé que c'était un top match? Par contre,
non, mais moi j'ai beaucoup aimé l'engagement des Marseillais que j'ai pas toujours vu ces dernières années, et surtout contre une équipe du PSG diminuée, de pas laisser passer sa chance, quoi. Voilà, de montrer d'entrée que ce soir c'est nous les tauliers et de faire le job. Alors après, on aime bien le petit chevalier là depuis hier soir, nous à Marseille là, on aime bien le petit chevalier. Donc comme on aimait bien Donnarumma aussi des fois là sur certains matchs, mais ouais. Eric, raconte-nous
on te connaît, t'es un peu dingo quand il y a l'OM, ça touche au cœur directement, hein. On a vu que ça fait
nous à la limite
réaction depuis le début de saison. Comment tu l'as vécu?
Jean-Pierre a pleuré,
avec Jean-Michel, avec Jérôme, Jean-Michel et Jean-Pierre, on a été sur le terrain, donc nos émotions à la limite, elles seront jamais comparables à celles des supporters. Par contre, j'ai tous mes potes qui sont des grands dingos de l'OM. Hier soir, ils étaient heureux. Et j'ai même, tout à l'heure, vous avez reçu Joris, par exemple, que j'embrasse, qui est mon pote, et je connais bien son minot. Et le petit, il a jamais vu.
Il a pas mal pris, mais tu peux bien comprendre
que, notamment chez les jeunes. Pour eux, c'est un truc énorme et peut-être même disproportionné par rapport à ce que représentait vraiment ce match, parce que c'est qu'un match de Ligue 1 de début de saison qui génère rien pour le moment. Sauf que tu ne peux pas empêcher, pour un supporter qui a ça dans le sang, de le vivre d'une manière peut-être un peu plus forte que nous, parce que pour les gamins, ils ont jamais vu ça et c'est considéré comme un exploit.
Puis limite le risque en plus quand t'as des enfants comme ça, c'est qu'il soit supporter du PSG, parce que c'est l'équipe qui gagne tout.
Il y a des supporters du PSG, alors qu'à notre époque, il n'y en avait pas. Voilà, oui, non, mais ça, c'est la réalité. Mais ça, c'est quand tu es l'équipe qui domine moi, quand j'étais petit, c'était la génération de Jean-Michel. Moi, je suis Vauclusienne. Dans le Vauclus, il y avait des maillots Manu France verts. Et pourtant, c'est une région marseillaise. Et donc, quand tu es l'équipe qui domine, obligatoirement, les gamins s'identifient à toi. Et donc ça, c'est la réalité du moment. Mais moi, je parle des supporters de l'OM qui souffrent depuis des années de prendre des branlées. Hier soir, ils ont peut-être vécu le moment de manière un peu surjouée.
Et Jérôme, t'as pas dit pardon, est-ce que tu peux dire allez l'OM alors?
Mais pourquoi vous
mais non, mais je lui demande, dise... non, mais... je lui demande ni pardon, mais ni voilà, aller l'OM. Exactement. Juste de dire que.
Il a un peu ronflé hier.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Et quand tu es le plus fort, tu as le droit de ronfler. Par contre, il va falloir que ton équipe apprenne à perdre parce que, entre le match contre Chelsea et hier soir, dans la défaite, je ne les trouve pas très classe.
Mais sur quoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça après match?
Après Chelsea, tu te souviens ce qui s'est passé?
Non, c'est vrai. Non, non, mais hier soir, parce que moi, hier soir, pour tout te dire, moi, sur ce que je vois quelqu'un de la sécurité qui met une baffe à Beraldo.
Non, mais il y a eu, oui, mais il y a eu, ils ont pas très bien vécu là, et je peux le comprendre.
Ouais.
Mais c'est la force des grands aussi de savoir perdre.
Exactement. Mais ça, tu as raison de le dire parce que on l'avait noté contre Chelsea où ils avaient pris une claque en finale et les réactions d'après match n'étaient pas à la hauteur. Alors même s'il y a du chambrage, et ça fait partie du foot. Et hier, j'imagine que les Marseillais.
Non, mais être mauvais perdant, ça fait partie des qualités de joueur de foot.
Oui,
aussi,
c'est vrai. Je suis d'accord.
Eric.
Pardon ?
Et d'un consultant ou pas ?
Mais pareil, non mais attends. Après...
D'être mauvais perdant ? Ah bah oui, d'être de mauvaise foi aussi. Hein.
Bon, ouais, okay, très bien.
Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Eric, après, c'est pas mon cas, mais.
On va être champion, Eric, ou pas ?
Hein ?
On va être champion ou pas ?
Déjà qu'on aille faire un bon résultat à Strasbourg, parce que. Tout à l'heure, on a fait le débat, on est capable de se mettre le feu tout seul. Hein. Donc attention, pas d'enflammade. Hein.
Pour une émission qui se dit d'être neutre. Quoi? Parce qu'on est neutre, hein.
Oui.
À l'arrivée, toi, tu t'oses dire à Eric, on va être champion.
Eh ben.
On. Mais pourquoi?
On assume les clubs de cœur. Non, mais quel est le problème?
Non, mais pour tout vous dire, on a préparé l'émission avec Benoît ce matin. Eric.
Benoît est neutre, Benoît.
Eric, on a.
Comme Jean-Louis était neutre.
Eric.
Parce que tu es neutre, toi,
Jean-Louis. Oui,
bien sûr. Ah ouais, moi, je suis totalement neutre. Mais, quand je prépare une émission, Eric, et Jean-Michel et Jean-Pierre, ce matin, donc, j'appelle Benoît.
Je prépare pas l'émission.
Ah ben, si, je peux te dire que ça me. Prendre toute la matinée.
Ouais.
Mais, et donc, et surtout quand t'as des énergumènes comme toi qui arrivent. Mais, Benoît me dit, non, mais on a fait un bon match, hein. On a fait un gros match. Je lui dis, mais on, c'est qui on?
Non, je te parlais de l'émission d'hier.
Non,
bon.
Non. Et ben, l'autre, il me dit on. Non, mais vous rendez compte quand même.
Bah, c'est le supporterisme. Voilà.
Moi, je savais pas. Moi, je savais pas pour qui il était, Benoît.
Bah oui.
Ouais. Je découvre. Hein, je découvre.
C'est la première
fois que je sais. C'est même surprenant parce qu'il avait bien caché. Hein.
Ah ouais, bien sûr. Bon.
Après, franchement, je suis content aussi pour Benoît parce que ça lui donne le sourire. Et étant donné que moi je suis neutre et que j'ai pas
bien
plus
sûr,
de qualité que ça,
évidemment.
Bien bon. Sûr que moi je vois le bien du championnat et allez, ça a relancé le championnat.
Voilà. Bravo Jérôme. Voilà. Donc, merci Eric d'être venu, tu reviens quand tu veux.
Merci Eric. Bonne fin d'émission.
Et bravo encore.
RMC, Rotten sans flamme. Mateta 1-1. Jean-Philippe Mateta on target for Palace. Mateta 1-1 with Kilman here. Mateta! What a blistering finish!
Allô Jérôme.
C'est l'événement tous les jours, un acteur du foot dans Rotten sans flamme. Rotten sans flamme qui s'est déplacé aujourd'hui à Clairefontaine. Jérôme, on est avec Arthur Perrault, suiveur des Bleus.
Salut messieurs. Bonjour à tous.
Parce qu'on
bonjour
est...
Arthur, merci de nous accueillir dans la maison du football français.
Ça fait plaisir que tu sois là à Clairefontaine.
On racontera les coulisses de l'avenue de Jérôme Rotten. T'as manqué à beaucoup de gens ici.
Donc ouais, puis, ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Non, on est ravis d'être là parce qu'on accueille la surprise de la liste de Didier Deschamps. Avec nous, Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace.
Salut bonjour. Jean-Philippe.
Merci, c'est bonjour.
Jean-Philippe. Ça va Jean-Philippe?
Ça va, ouais, bon.
Ça peut que aller. Hein,
ah là. Non, je peux vous voyez.
Non, tu vas me tutoyer. Quoi.
Ah,
je suis si vieux que ça.
Ah, ouais. non.
Et Titi Henry, qui a le même âge que moi, qui a été ton coach au JO, tu le tutoyais ou tu le
vous
voyais?
Je vous vois.
Ah bah alors tu vas me vouer. Non, je bon, Jean-Philippe, déjà c'est quelle première réaction, premier pas ici au château à Clairefontaine, c'est magnifique.
Oh, c'est magnifique, je connaissais déjà Clairefontaine mais venir pour les A c'est indescriptible, c'est un rêve quoi.
C'est qu'on ressent quand on est joueur un petit peu la première sélection. Alors là, je sais qu'il y a eu beaucoup de blessés et que en effet, donc Didier Deschamps a fait appel à toi mais sans ces blessés quand même, sur les derniers mois, les dernières années, tu te rapprochais du niveau international. Est-ce que à chaque sélection, bah, tu regardes ou tu avais des petits échanges aussi, peut-être avec le sélectionneur?
La première sélection, c'est toujours... tu l'attends toujours, parce que souvent, tu es présélectionné, donc souvent, tu as l'espoir d'être appelé. Après, tu n'es pas appelé, je suis un mec qui est toujours ambitieux. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est pas demain, c'est après-demain. Et j'espérais beaucoup et quand j'ai reçu cette convoque, franchement, j'étais vraiment content.
On t'a vu hier arriver, Jean-Philippe, totalement décontracté à Clairefontaine, avec le sourire, comme si voilà, ça glissait sur toi. Comment s'est passée ton intégration ? On sait que t'es proche de Michael Olise. Est-ce qu'il t'a donné quelques petits tips en arrivant ? On sait que lui, il est un peu timide. Est-ce qu'il t'a aidé quand même ?
Ah bah, enfin, Michael Olise, il jouait avec lui plusieurs années à Crystal Palace et aussi au JO. Et après, il y a aussi les gars avec qui je joue contre. Qu'on a la tête de Liverpool, il y a aussi ceux avec qui je fais les JO, et après aussi je suis quelqu'un, je n'ai pas peur de comment ça s'appelle ?
Du contact.
Du contact, ouais. Je peux parler.
T'es pas timide.
Voilà, je suis pas timide.
Non, non, bah, de toute façon.
Je suis pas timide, je fais des blagues, c'est important pour une vie de groupe.
Exactement, non, ouais. Pour l'intégration, c'est important.
Ouais, c'est important.
Et d'autant plus pour Didier Deschamps qui doit observer, parce que lui, c'est un fin observateur, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On parlait de tes saisons anglaises, alors. On pourrait parler aussi en Allemagne et tout ça, mais dernièrement, tes saisons anglaises, c'est vrai que sur les deux dernières saisons, tu es très performant, tu marques 30 buts, hein, c'est ça, je crois,
30 buts sur les deux dernières saisons. Ouais,
comment t'expliques ce déclic que tu as eu et, est-ce que c'est dû à l'ambiance d'un club ou au travail, au conseil de certains anciens ? J'imagine que quand tu croises la route de Thierry Henry, qui a été son sélectionneur avec les JO, ça peut aider dans la progression.
Oui, ça a aidé beaucoup. J'ai regardé des vidéos avec lui. De ses propres buts, on a fait des vidéos sur lui. Et oui, non, ces deux dernières années, j'ai eu des bons résultats parce que déjà, le club, ils me font confiance. J'ai un coach qui me fait confiance et comme vous l'avez dit, c'est beaucoup de travail aussi. Beaucoup de travail acharné, beaucoup de gros objectifs. Et c'est pas fini, j'espère faire plus.
Quand on arrive, alors déjà vous avez gagné un trophée l'année dernière avec Crystal Palace, c'était pas arrivé depuis X années, je sais plus combien de temps.
C'était même le premier trophée de l'histoire.
Donc déjà ça marque, mais quand tu gagnes des trophées comme ça, que tu réalises des bonnes saisons, où tu marques beaucoup de buts, forcément t'as aussi envie au bout d'un moment de passer un cap. Tu parlais de ton âge tout à l'heure, 28 ans, t'es pas vieux, mais t'es pas non plus jeune. Est-ce que, tu vois, dans ta progression, t'as un plan qui te dit, tiens, peut-être que j'ai envie d'atteindre les sommets et de jouer dans un des top clubs anglais ?
Oui, ben, c'est naturel, ça. C'est comme tout joueur ambitieux veut passer ce cap-là. Surtout, en plus, quand t'as une sélection et tu viens, autour de toi, c'est que des joueurs qui jouent la Champions League, ils gagnent les meilleurs trophées. On joue autour des meilleurs joueurs du monde, donc naturellement, tu veux passer ce cap-là.
Contre
les Arméniens.
Non, mais évidemment.
Ça serait bien.
Ça serait bien.
Tu sais que mon seul but dans l'équipe de France sur coup franc, c'est contre les îles Féroé.
Ok.
Alors après, c'était le meilleur gardien d'Europe, le gardien des îles Féroé à l'époque, mais non, je plaisante. Mais bon, ça marque dans tous les cas. Mais déjà, la première sélection, en tout cas, je te le souhaite. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que tu as vécu au JO avec Thierry Henry. C'était quand même une aventure fabuleuse, tu vois, et pas gagné au départ. Avec tous les soucis qu'a eu Thierry pour composer ce groupe, mais ça a été une belle preuve de confiance à ton égard aussi, parce qu'il t'a pris, tu faisais partie des trois joueurs surclassés entre guillemets,
qui passaient la limite d'âge.
Et est-ce que ce parcours-là, est-ce que c'est le meilleur moment de ta carrière, cette vie commune là pendant quelques semaines, et surtout ce que ça t'a apporté, quoi.
Non, comme tu l'as bien dit, ça a commencé vraiment. C'était vraiment pénible pour le coach parce qu'il demandait aux joueurs de venir. Même moi, au début, c'était non, mais ça a fini par dire oui. Et il y avait des joueurs qui venaient, qui partaient, qui voilà. Et au final, ça s'est très bien fini. On savait pas que ça allait finir comme ça. Franchement, humainement, c'est l'un de mes meilleurs moments dans ma carrière.
Et pour toi, c'est particulier, tu marques en quart, deux fois en demi et en finale. Donc, t'es un acteur majeur de ce tournoi olympique. Donc, déjà, le souvenir personnel est magnifique. Ouais. Et c'est une façon aussi de. Est-ce que t'as senti qu'en termes de notoriété en France, t'as changé à ce moment-là ?
L'avant et après, considérable, ouais.
Le bizutage est bien passé ? T'as chanté quoi comme chanson ?
Non, c'est ce soir.
Ah, c'est ce soir. T'as déjà ta chanson ?
T'as chanté quoi ?
Je pense que j'ai chanté Champs-Élysées.
Ah, pas mal! Magnifique! Tu peux nous faire un petit refrain ou pas?
Aux Champs-Élysées.
Aux Champs-Élysées.
Un spécialiste de la chanson.
Ah, oui. Merci Jean-Philippe.
En tout cas, merci. Bon courage. Je te souhaite vraiment de découvrir ta première sélection. Là, c'est le premier rassemblement. Au
Parc des Princes, en plus.
Au Parc des Princes, ça va être fantastique.
J'espère.
Parce que quand tu étais plus petit, peut-être que tu m'as vu jouer au Parc des Princes. Voilà. Maintenant, c'est moi qui vais te voir jouer. Je vais être dans la tribune. En tout cas, je te le souhaite.
Merci.
Merci d'être là.
Merci les gars.
Merci à Jean-Philippe Mateta. La version longue est à retrouver sur nos podcasts Roten sans flamme dans les plateformes de téléchargement.
Et dans un instant, la suite des meilleurs moments de Roten sans flamme sur RMC avec le jeu de la vérité de Mathieu Valbuena. À tout de suite.
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.